Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de novembre, puisqu'on est le mardi 14, émission pendant une heure consacrée à la défense et à la promotion des droits humains. Et ça, je pense que vous le savez à peu près tous et toutes, parce que ça fait des années qu'on est présent sur l'antenne de Principes Actifs. Et pour l'animer ce soir, eh bien, c'est toujours la même joyeuse bande, je dirais. Il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Voilà. Alors, ce soir, on va commencer. Bon, souvent, Amnesty, c'est des sujets un peu difficiles et des nouvelles qui ne sont pas toujours très, très réjouissantes, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la défense des droits humains. Mais ce soir, on va commencer par deux informations un peu positives pour changer un peu aussi de ce que vous entendez à longueur de journée sur les radios, les chaînes de télé, d'information, etc. Et tous les drames, malheureusement beaucoup trop nombreux, qui se multiplient à travers le monde. Et donc, pour commencer, on va vous donner deux informations un peu plus positives, comme je le disais. Et la première, c'est Claire-Lise qui va vous la dire.
Alors, je vais vous parler de ce qui se passe au niveau local. Vous savez que je fais partie du groupe d'Amnesty, mais je suis aussi membre du CFEDASTI et de l'association Un Toit Sous la Main. Et on est souvent sollicité au niveau de ces deux associations par les problèmes d'hébergement des personnes qui se retrouvent à la rue. Et souvent, ce sont des personnes qui arrivent à Évreux, qui sont primo-arrivants et qui sont demandeurs d'asile, qui attendent de pouvoir passer à France Terre d'Asile et ensuite d'avoir un rendez-vous à la préfecture de Rouen pour être enregistrés comme demandeurs d'asile. Il se trouve qu'il y a de plus en plus d'arrivants, dont, et c'est nouveau, des mamans avec des enfants. Et il y a des directrices d'école, des travailleurs sociaux, des associations caritatives qui alertaient de plus en plus souvent sur le fait qu'il y avait des mamans avec des enfants à la rue, et ce, après le 1er novembre, donc après l'ouverture de la MALA, qui est un établissement géré par Accueil Service et qui permet la mise à l'abri l'hiver des personnes qui sont sans abri. Donc, on ne remet absolument pas en cause les institutions et les associations qui œuvrent toutes, chacune, pour l'accueil des personnes. Mais malgré l'ouverture de la MALA, il restait encore de très nombreuses mamans et enfants repérés notamment à la maraude autour de la gare, et il y avait au moins une vingtaine d'enfants à la rue.
Tu nous en as parlé il y a quelques émissions, là, maman avec
ses... Donc, nous avons décidé, puisque le CFED, Un Toit Sous la Main, Amnesty, la CIMAD, la Ligue des Droits de l'Homme, l'association ANDA, je vais en oublier, le RESF 27, font partie du collectif Solidarité Migrants. Nous avons décidé d'écrire un mail à la préfecture pour dire un petit peu ce qui se passait. Alors, je vais vous lire un peu le début du mail et je réserve pour la suite après ce qui s'est passé ensuite. Donc, monsieur le préfet, madame la secrétaire générale, alors que la MALA accueille chaque nuit les sans-abri depuis le 1er novembre, des dizaines de demandeurs d'asile, dont des enfants et des bébés, restent à la rue. Depuis quelque temps, la demande d'asile s'est visiblement fortement accrue à Évreux et les délais pour pouvoir faire enregistrer une demande sont en passe de ne plus être tenus. Par ailleurs, vu de nos associations, la migration d'asile est familiale, il y a des familles nombreuses, monoparentales, féminines et africaines, beaucoup de personnes originaires du Congo et du Nigeria. Alors, à Évreux, cette réalité ne nous semble absolument pas représentative de celle telle qu'elle existe au plan national, et cela génère localement une déstabilisation des structures d'accueil et d'accompagnement. France Terre d'Asile, le 115, les écoles, les directeurs d'école nous alertent de manière hebdomadaire, les associations caritatives, les communautés nationales qui ne peuvent plus répondre aux besoins de solidarité de leurs compatriotes. L'OFI lui-même ne semble plus en mesure de faire face tant la situation se tend à Évreux. En premier lieu, et dans un souci humanitaire élémentaire, notre collectif vous demande, monsieur le préfet, de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin que tous les enfants soient mis à l'abri. Enseignants et parents d'élèves sont très touchés dans les établissements scolaires du total dénuement des enfants dont les parents sont en attente d'un enregistrement de leur demande d'asile et d'un hébergement. La situation actuelle nécessite, selon nous, l'ouverture de nouvelles structures d'accueil et nous pourrions participer à la réflexion sur sa nature et sur son organisation. Par ailleurs, compte tenu des spécificités des demandeurs d'asile à Évreux, il nous semble essentiel qu'au niveau national, une plateforme de répartition sur l'ensemble du territoire soit mise en place, intervenant sur le nombre, la composition familiale et l'origine des demandes d'asile. Cette plateforme existe pour les mineurs non accompagnés. Elle permet d'équilibrer l'effort d'accueil sur l'ensemble du territoire. Étant donné son positionnement géographique à 1 heure de Paris en train ou en voiture, notre ville-préfecture est manifestement particulièrement attractive pour les ressortissants de quelques pays. Enfin, nous jugeons nécessaire que soient pensées des actions d'éducation populaire, culturelle et civique dès l'arrivée des exilés et pas uniquement après l'obtention de leur droit au séjour, afin que chacun reçoive les graines de l'intégration et n'y échappe pas ceux qui pourraient rester clandestins pendant X années. Nous avons bien conscience que certaines de ces propositions relèvent directement des prérogatives du gouvernement. Néanmoins, il nous apparaît indispensable d'en faire part aux représentants locaux de l'État que vous êtes, convaincus que vous prendrez soin d'en référer en haut lieu. Nous restons attentifs à ce que, à Évreux, chaque exilé qui le souhaite puisse demander l'asile dans le temps imparti. Le conflit social récent à l'OFPRA nous confirme que, dans la conviction que l'État doit dès à présent renforcer ses moyens au sein des offices chargés de l'asile et de l'intégration. Mais avant tout, nous nous positionnons dans l'attente de mesures que vous pourriez prendre pour répondre à l'urgence de la situation en matière d'hébergement et de protection des enfants. En fonction de nos moyens et de notre connaissance du territoire, nous sommes disponibles pour participer à la réflexion visant à faire émerger des solutions. Ne doutant pas de l'attention particulière que vous porterez à ces signaux d'alerte, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Donc le mail que nous avons envoyé mercredi 8 novembre était adressé à Monsieur le préfet de l'Eure, Simon Babre, et à Madame la secrétaire générale, Isabelle j'arrive plus à dire son nom, excusez-moi.
La secrétaire générale.
La secrétaire générale, je vais vous retrouver après son nom, mais c'est un nom composé, je ne l'ai pas retenu. Donc, on envoyait le mail le mercredi 8. Le jeudi 9, on se réunissait en réunion de bureau d'un toit sous la main, puis on se disait, bon, on attend jusqu'à vendredi pour voir s'il y a une réponse de la préfecture. Et la réponse de la préfecture, elle ne s'est pas fait attendre. Vendredi, la secrétaire générale a téléphoné à Vincent Breuil, donc qui est le président d'un toit sous la main, un des présidents du bureau d'un toit sous la main, pour lui annoncer ceci, c'est-à-dire que suite au mail qu'on a envoyé, monsieur le préfet, madame la secrétaire générale de la préfecture sont allés vérifier sur place la véracité de nos propos, c'est-à-dire qu'ils sont allés participer à la maraude du soir. Donc en principe, les maraudes, elles sont organisées, c'est plutôt des gens d'accueil-service et de la Croix-Rouge hein, qui vont à plusieurs endroits d'Évreux distribuer de la nourriture et qui en même temps notent les personnes à la rue et font remonter les informations. Donc ils sont participés à la maraude et ils ont vu qu'effectivement, il y avait encore au 9 novembre des mamans et des enfants nombreux dans les rues. Donc ils se sont engagés à trouver un hébergement d'urgence pour chacune de ces mamans avec enfants. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont dit qu'ils allaient peut-être pas pouvoir directement trouver un hébergement tout de suite dès le lendemain pour toutes les familles, mais ils ont essayé de remuer un petit peu dans les brancards pour qu'il y ait des places pour ces mamans et ces enfants. Et ils ont demandé aux associations du collectif Solidarité Migrants de prévenir la DDETS s'il restait encore des mamans et des enfants à la rue. Voilà. On peut prévenir et ces familles, elles sont censées être prises en charge ensuite par l'OFI, qui donne des logements pour les demandeurs d'asile. Mais en attendant, il est hors de question que des enfants soient à la rue. Donc, c'est pas souvent, mais là, je trouvais que c'était vraiment une nouvelle très appréciable et que, bon, ils ont fait un effort conséquent pour mettre en œuvre, enfin, pour trouver une réponse adaptée. Et donc, nous sommes invités à faire remonter toutes les situations qui n'auraient pas été résolues, donc à la DDETS et à la secrétaire générale. Et la pertinence de notre collectif Solidarité Migrants, collectif de citoyens impliqués sur le terrain, se trouve renforcée par cet épisode. Notre vigilance et la qualité de la relation que nous avons nouée avec les autorités préfectorales est salutaire pour nombre de personnes exilées. Nous pouvons collectivement nous en féliciter et nous en servir de point d'appui pour renforcer nos équipes militantes. Nous pouvons également remercier le père évêque Olivier de Cagny pour le message qu'il a lui aussi adressé au préfet en soutien à notre requête. Parce que le soir le 9 novembre, il a renforcé notre demande auprès du préfet aussi. Voilà. Donc moi, je trouvais que c'était quand même appréciable.
Un peu d'humanité.
Ah, oui, un peu d'humanité. Ça prouve que quand effectivement la société civile, comme on dit, se mobilise à travers les différentes associations et ONG et interpelle les autorités, on n'a pas forcément que des fins de non-recevoir. Un peu trop souvent, on en a effectivement des fins de non-recevoir, mais là, c'est pas le cas. Et le fait effectivement que monsieur le préfet se prenne par la main pour aller voir sur le terrain comment ça se passait montre que on fait bien, on a tout à fait raison de l'interpeller.
Alors, ça remet... Je le redis, ça remet absolument pas en cause le travail du 115, le travail d'accueil-service ou des gens de la Croix-Rouge qui participent aux maraudes. Simplement, le collectif Solidarité Migrants peut se permettre d'envoyer un mail, fait pas partie d'une hiérarchie et peut mettre le doigt là où le petit caillou dans la chaussure, là où ça fait mal, oui, pour insister. Je pense que ça aide aussi ces associations-là, parce que je pense que c'est pas facile pour eux de passer, de donner à manger, de laisser ces personnes dans la rue.
C'est clair. Et
surtout des enfants qui vont à l'école le lendemain. Enfin, on n'arrive même pas à imaginer comment ça peut être inscrit dans la tête d'enfants qui viennent déjà de l'immigration et qui sont très perturbés.
Ouais. Pour une fois, j'étais un petit peu contente.
On rappellera aussi que le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est un droit reconnu par le droit international, quelle que soit la situation de la personne dans le pays où il est. Donc, effectivement, c'est une action, une réaction de la préfecture positive. J'enchaîne, effectivement. Oui, il y a Edith qui me montre déjà la pendule pour pas qu'on prenne trop de retard dans le début de notre émission. Moi, je voulais vous parler.
Alors, Didier, il veut parler. Vous vous rappelez la dernière radio?
C'est ça. Je devais vous en parler la dernière fois. On a manqué de temps. Donc, cette fois-ci.
Et là, c'est son temps à lui. On ne parle plus. N'est-ce pas, Claire-Lise? Tu ne l'interromps pas, hein?
Vas-y, papy.
Je voulais vous parler d'un article qui est paru dans le numéro du mois d'octobre, donc celui d'avant, de la chronique qui est le mensuel d'Amnesty International France. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc cet article, ça s'appelle « Mamie fait de la résistance » et ça parle de changement climatique et de droits humains. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ça commence comme ça. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire quelques extraits de cet article. « Les expertes en bouffées de chaleur, comme elles se surnomment, sont arrivées d'un pas lent, mais sûr devant la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, accueillies par une forêt de caméras. À Strasbourg, le 29 mars dernier, plusieurs membres de l'association Suisse, les aînés pour la protection du climat, ont rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois, un État doit convaincre les 17 juges de la plus haute juridiction d'Europe que sa politique climatique est suffisante pour protéger sa population. Or, celle de la Suisse ne l'est pas, insiste Anne Maurer, du haut de ses 74 ans, coprésidente de l'association. La canicule de 2003 a causé environ 1000 décès pour une population de 7,3 millions de personnes en Suisse, en particulier chez les seniors, sans servir de leçon. Ces trois derniers étés, l'Office fédéral de la santé publique a enregistré une surmortalité et une augmentation des risques cardiovasculaires chez les plus âgés. Et tout ce que nos autorités trouvent à dire, c'est de rester chez nous, fermer les stores et boire de l'eau. S'insurge Anne qui, aux côtés de 2300 autres Suissesses, âgées en moyenne de 73 ans, a saisi donc la Cour européenne des droits de l'homme. Car si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Et pour les requérantes, l'État a manqué à ses obligations positives de protéger leurs droits, à commencer par celle à la vie. En 2015, à l'instar de 195 autres pays, la Suisse s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici à 2030 en adoptant les accords de Paris. Il s'agit de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés. Mais en 2016, nous ne voyons aucune stratégie climatique forte mise en place. Greenpeace, la section suisse, émet l'idée d'une action judiciaire. Nous avons utilisé une loi fédérale suisse qui permet aux gens de se défendre contre les actions, en l'occurrence l'inaction climatique, de l'administration s'ils prouvent un intérêt digne de protection, explique Georges Klinger, qui est membre aussi de l'association, et comparé à la population globale, les femmes âgées sont les plus vulnérables en cas de forte chaleur. C'est prouvé scientifiquement. La présidente de l'association ajoute: nos petits-enfants nous voyaient comme des super-héroïnes défendant la planète en tablier de cuisine et bas nylon. Nous ne pouvions les décevoir. Alors les aînés saisissent en 2019 la plus haute juridiction suisse, le tribunal fédéral. Elle multiplie les actions, manifestations pour le climat, randonnées le long du Rhin pour la protection de l'eau. Mais un an plus tard, autre coup de massue, leurs affaires est rejetée. Motif, les recourantes ne sont pas touchées avec l'intensité requise dans leurs droits. Autrement dit, la Suisse agira lorsqu'il sera trop tard, déplore Anne. La question était alors posée lors d'une assemblée générale. Les aînés doivent-elles poursuivre ce combat en justice contre Goliath? Après 10 minutes de délibération, les centaines de points se lèvent. C'est oui à l'unanimité. Cette fois, l'association dépose un recours à la Cour européenne des droits de l'homme qui, en mars 2021, annonce qu'elle traitera leurs affaires de façon prioritaire. On en arrive donc effectivement à cette audience, donc du mois de mars dernier, et l'audience est présidée par la juge irlandaise Sofria O'Leary, et elle s'ouvre avec la plaidoirie d'Alain Chablais, qui est l'avocat représentant l'État suisse, et qui dit que la Confédération suisse dénonce un procès d'intention. L'État en fait assez en matière de lutte contre le réchauffement. Pour preuve, l'adoption d'une loi fédérale sur la réduction de son empreinte carbone dès 1999. De plus, ajoute-t-il, la Suisse ne contribue que de 0,1% des émissions mondiales de CO2. Mais en fait, si on recalcule en tenant compte de l'achat de crédits carbone, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais en fait, le chiffre réel d'empreinte carbone de la Suisse passe à 3%, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que le Japon et le Brésil. Bref, les débats continuent, je vais accélérer un petit peu ce compte-rendu. Les débats continuent pendant cette audience, qui dure en fait effectivement plusieurs heures, et les témoignages de l'association suisse des mamies continuent à faire jouer les motifs qui les amènent devant cette Cour européenne des droits de l'homme. Il y en a une qui dit « J'habite dans la vallée des Alpes, traversée par un axe autoroutier. L'été, mon village est recouvert d'un nuage gris et l'air y est irrespirable. Mon asthme a empiré et je dois faire des inhalations de cortisone 3 fois par jour. Mais plutôt que de réduire le trafic des poids lourds, les génies de notre confédération prévoient d'élargir l'autoroute. » Donc, au bout de 3 heures et quelques de délibération, l'audience se termine et les aînés de notre association sortent les traits tirés, sonnés par ces 3 heures de débat. Elles vont boire pour se remettre, elles vont boire un coup au café d'à côté, mais ce sera la conclusion de l'article. Le verdict est attendu d'ici à la fin de l'année. Et si la Suisse est condamnée, le gouvernement sera alors contraint de prendre des mesures concrètes et bien plus ambitieuses pour freiner le réchauffement climatique, insiste Raphaël Naïm, avocat de l'association des aînés. Par ailleurs, une décision positive ferait jurisprudence pour les 46 États membres du Conseil de l'Europe. Voilà donc effectivement cet article. Alors vous pourrez lire l'intégralité dans la chronique du mois d'octobre d'Amnesty. J'ai trouvé cet article très sympa et très, très bien fait et tout à fait positif. Comme quoi effectivement il n'y a pas d'âge, première conclusion, il n'y a pas d'âge pour militer. Et il ne faut jamais se baisser les bras, puisqu'après plusieurs refus devant les différentes juridictions d'État suisse, cette association donc de retraités suisses a pu faire entendre sa voix devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas rien. Donc on attendra effectivement la décision définitive de cette Cour pour savoir si la plainte de l'association suisse est recevable.
Juste un petit mot, j'ai retrouvé le nom de la secrétaire générale de la préfecture, parce que j'étais désolée, vraiment, alors j'avais presque, en partie, donc en fait c'est Isabelle Dorlia Pouzet, je vous avais dit Isabelle Pouzet, je vous avais dit, j'en oublie un petit bout, c'est un nom composé, donc Isabelle Dorlia Pouzet, qui est la secrétaire de la
préfecture,
la secrétaire générale, Simon Babre, qui est le préfet de l'Eure, et il y avait aussi, j'ai oublié de vous le dire, le directeur de la DDETS, donc qui est responsable des questions d'hébergement.
DDETS, tu peux nous traduire pour ceux qui ne connaissent pas.
Non, parce que je vais me tromper.
Direction départementale.
C'est l'ancienne cohésion sociale.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, on fait la première pause musicale et on se retrouve juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour son émission sur la défense et la promotion des droits humains. Et le morceau que vous venez d'écouter, c'est un morceau qui s'appelle From Shadow to Light, c'est en anglais, mais c'est la musicienne qui l'a enregistré parfaitement français, elle s'appelle Anne Passeo. Et ne quittez pas l'antenne jusqu'à 8h, parce qu'on va reparler tout à l'heure de Anne Passeo. Pour une autre raison. Voilà, et je voulais quand même ça va être très très court, mais je voulais quand même vous donner la traduction du texte, parce que c'est un morceau en fait en hommage aux luttes pour les droits des femmes, et je voulais vous donner la traduction du texte, puisqu'elle chante en anglais.
Ouais, parce que moi j'ai pas tout compris. Hein.
Elle chante en anglais, voilà. Et donc voilà ce qu'elle dit. « Emmène-moi vers l'aube, pour me lever à nouveau, briller à nouveau, forte, nous marcherons loin pour fleurir à nouveau, et croître à nouveau très haute. » Emmène-moi vers un pays pour me lever à nouveau, briller très fort à nouveau, et lorsque le soleil se lève, sourire à nouveau, renaître à nouveau, forte. Voilà.
Voilà. Alors, bah, écoute, dans les aussi, moi, j'ai entendu une phrase de Bartabas qui parlait de son nouveau spectacle Cavalier de l'exil et que j'ai noté parce que, par rapport aux droits des femmes, bah, je l'ai trouvée fort à propos et bien dite. Mon visage découvert ne me dénude pas. Pourquoi porterais-je sur ma tête le poids de tes faiblesses ?
Oui.
Voilà.
Ça donne des raisons de penser, effectivement, de cette phrase de Bartabas. Et c'est très, très.
Ah, c'est dans son spectacle, hein, voilà. Donc, c'est dit par une femme. Et puis, mais bon, elle m'a frappée dans l'oreille et oui. Je l'ai écrite.
Oui. Et on va revenir sur l'actualité en France, parce que c'est Claire Lys qui va vous parler d'un projet de loi qui nous chiffonne beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Bon, là, je vais revenir pas contente.
Alors, elle est ronchonne.
La Claire Lys que vous connaissez. Effectivement, on est très inquiets, je vous en ai déjà parlé, sur ce fameux projet asile et immigration, qui pour nous est un texte dangereux. Donc, il est à l'examen du Sénat depuis le 6 novembre. Donc, après plusieurs reports, le gouvernement présente finalement son projet de loi sur l'asile et l'immigration au Sénat à partir de cette semaine, puis à l'Assemblée nationale en décembre. Ce 22e texte en 30 ans confirme une fois de plus l'érosion des droits des personnes exilées en France. Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France se succèdent et ont toujours les mêmes conséquences. Le recul des droits des personnes exilées, la détérioration de leurs conditions d'accueil. Le contenu de ce nouveau projet de loi est considérablement aggravé par rapport à sa version initiale. Alors notre priorité à nous, Amnesty International, mais aussi les autres associations de défense des droits humains, c'est le respect des droits humains de tous et de toutes. Alors voici un décryptage de certaines des mesures proposées. Vous en avez entendu parler beaucoup à la télé. L'aide médicale d'État sera supprimée et remplacée par une aide d'urgence. Alors, ce que propose le gouvernement ? Le gouvernement envisageait la suppression de l'aide médicale d'État dans le cadre de ce nouveau projet de loi. Et la suppression de l'aide médicale d'État a été votée au Sénat le mardi 7 novembre 2023. Et c'est inacceptable. Alors, l'aide médicale d'État, c'est un dispositif qui permet actuellement aux personnes en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Le gouvernement souhaite le remplacer par une aide médicale d'urgence qui ne permettrait plus le remboursement d'un grand nombre de soins et donc en réduirait l'accès pour les personnes les plus précaires. Nos demandes, donc nous nous opposons fermement au démantèlement de l'aide médicale d'État. Sa suppression risque d'entraîner des retards de soins, une dégradation de l'état de santé des personnes et cela représente un véritable danger pour la santé des personnes en situation irrégulière et ça pourrait aussi avoir une incidence sur la santé publique en général. Puisque les personnes qui ne sont pas soignées, les personnes qui, par exemple, l'aide médicale d'État, ça permet quand même d'avoir accès facilement à des médecins et de détecter si des gens ont la tuberculose, des maladies contagieuses, des maladies qui n'existaient plus en France, mais qui reviennent et qui reviennent aussi à cause de la pauvreté et des gens qui ont vécu dans des conditions abominables. Voilà. Donc... C'est un recul vraiment en matière des droits de santé et c'est très inquiétant parce que c'est laisser des personnes sans... Parce que les personnes, si elles n'ont plus l'aide médicale d'État, tout le monde va aller aux urgences. Enfin, les urgences vont être engorgées.
Elles le sont déjà,
mais ça va être encore pire. Et c'est pas une solution... par rapport à notre système de santé.
Et puis rappelons, je t'interromps une seconde, Clarisse, rappelons aussi que le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Alors, on a vu quand même la foire d'empoigne au Sénat, où vraiment, c'est la course à l'échalote de qui va... qui va durcir le plus la loi, de qui va... mettre en avant que son parti est le plus... Parce que c'est quand même des propos très populistes.
Bien sûr.
Qui vont dans la droite lignée de ce que préconisait le Rassemblement National, par exemple. Et pour essayer de refaire venir de l'électorat vers le gouvernement actuel, eh ben on va dans le sens de où va le vent. Donc tout va mal, c'est la faute aux étrangers.
C'est trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on a fait tout le parcours migratoire, ils viennent dans des conditions pas possibles, mais en plus, ils viennent absolument rien que pour être des délinquants en France et des gens dangereux. Là, cherchez un peu l'erreur quand même. Oui.
Alors il y a encore, il y a quatre points hein, par rapport à Amnesty. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, mais qui sont soulignés dans cet article, c'est aussi l'enfermement des enfants exilés, donc interdit au moins de 16 ans. Donc ce que propose le gouvernement, après l'enfermement de milliers d'enfants en raison de la situation administrative de leurs parents, après 9 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, et après des années de campagne des associations, le gouvernement envisage dans cette loi d'interdire enfin l'enfermement des enfants de moins de 16 ans en centre de rétention administrative. Seulement de moins de 16 ans, hein, parce que si, entre 16 et 18 ans, ils vont quand même continuer à les enfermer. Ainsi, cette mesure concerne les centres de rétention administrative, mais comme nous le redoutions, elle ne concerne pas les locaux de rétention administrative et les zones d'attente. Et en fait, il y a énormément de personnes qui attendent, qui sont dans des zones d'attente et dans les locaux de rétention administrative. Et, il y a un scoop aussi. Et donc, il va y en avoir un à Évreux qui ouvre là mais et qui va être situé dans l'hôtel qui est en face de la gare.
En face de la gare, oui, voilà. J'ai vu l'article.
C'est des chambres, en fait, qui seront réservées
pour servir de local
de rétention. Donc, des enfants continueront d'être enfermés dans des lieux de privation de liberté. Nos demandes d'amnistie, c'est mieux qu'actuellement, mais c'est pas assez. Nous demandons l'interdiction de l'enfermement de tous les mineurs, c'est-à-dire des enfants de moins de 18 ans. Le fait que les mineurs de 16 à 18 ans ne soient pas concernés par la mesure est tout bonnement contraire au droit international. Nous restons aussi préoccupés par les déclarations du ministre de l'Intérieur souhaitant exclure les enfants de Mayotte de cette interdiction. En 2021, 3135 enfants ont été enfermés en centre de rétention et 76 en France hexagonale, selon la CIMAD. La régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier uniquement dans les métiers en tension. Donc, ce que propose le gouvernement, c'est que les salariés ne seraient plus dépendants de leur employeur pour faire leur demande de régularisation. Ça, c'est une avancée. Cela permet de limiter le pouvoir de l'employeur et d'éviter les abus, le chantage et l'exploitation au travail. Nos demandes, c'est que tous les travailleuses et les travailleurs sans papier devraient bénéficier des mêmes droits, quels que soient les besoins économiques du pays. La régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier ne devrait donc pas être limitée au secteur d'activité en tension. Les personnes doivent aussi être autorisées à changer d'employeur pendant la période d'examen de leur demande de régularisation. Parallèlement, les parlementaires doivent accorder une vigilance particulière à la situation des femmes travailleuses sans papier pour éviter tout risque de discrimination, même indirecte, dans l'accès aux démarches de régularisation. En effet, les femmes sont plus touchées que les hommes par le temps partiel subi et donc plus souvent contraintes d'avoir plusieurs employeurs. Aide à domicile, travailleuse du secteur de la propreté ou travailleuse domestique, par exemple. Les parlementaires doivent donc faire en sorte qu'elles aient les mêmes chances d'être régularisées que les hommes. Aussi, nous rappelons que la procédure de régularisation se doit d'être juste, simple, prévisible, transparente, et les personnes doivent pouvoir obtenir une réponse dans des délais raisonnables. Alors, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, en fait, ça va être laissé à l'appréciation du préfet, et ça ne sera plus totalement inscrit dans la loi, c'est à l'appréciation du préfet. Donc, voilà. La collégialité des juges, donc gage d'impartissabilité,
Ils vont être impartiaux.
Allons, mesdames.
Impartialité.
C'est ça.
Donc, c'est supprimé. Donc, aujourd'hui, les demandes de recours d'asile sont le plus souvent étudiées par 3 juges de la Cour nationale du droit d'asile. Ces 3 juges siègent ensemble et c'est ce qu'on appelle le principe de collégialité. Parmi les 3 juges, la présence d'une personne nommée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, fait la spécificité de la Cour nationale du droit d'asile. C'est un acquis précieux, car beaucoup ont une expertise sur les pays d'origine qui permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la personne est en exil. Alors, ce que propose le gouvernement, c'est le projet de loi, il prévoit la généralisation d'un juge unique pour traiter les dossiers de la demande d'asile devant la CNDA, sauf en cas d'affaires particulièrement complexes. Donc un seul juge, et non 3, aurait alors la responsabilité de décider d'accepter ou de refuser la demande d'asile, donc de décider seul de la vie de nombreuses personnes. Donc c'est un véritable recul pour les personnes qui demandent l'asile en France, et nos demandes, c'est qu'il est important de conserver cette collégialité des juges pour traiter les demandes d'asile. Ça permet de croiser les regards, d'éviter de se laisser guider par des représentations personnelles pour juger de la crédibilité, de la cohérence du récit. Cette collégialité est un gage d'impartialité. Donc, une journée d'audience, ce sont 13 dossiers examinés, 13 histoires de vie très différentes, etc. Et 3 juges ne sont pas de trop lorsqu'il s'agit de traiter de dossiers si sensibles. Voilà. Le système de l'asile et de l'accueil en France dysfonctionne depuis de nombreuses années. Avant un nouveau projet de loi, c'est tout d'abord le respect des droits déjà prévus par le droit national, européen et international qui est nécessaire pour améliorer la situation dramatique sur le terrain. Des personnes contraintes de vivre sous des tentes au cœur de nos villes, des atteintes graves aux droits fondamentaux à nos frontières, pour ne citer que ces problèmes. Dans l'attente de ces mesures de fond, nous appelons les parlementaires à rejeter ce texte et à adopter une politique respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité des personnes migrantes. Donc, messieurs les députés de l'heure, nous vous demandons de rejeter le projet de loi Asile et immigration tel qu'il va être présenté
à la Chambre des députés.
À l'Assemblée nationale.
On peut y croire.
Oui, on peut y croire. Mais bon, voilà, c'est pas comme ce qu'on avait dit au début de l'émission sur les nouvelles.
Là, c'est bien
un peu positif. Ouais. C'est quand même assez mal parti, c'est clair. Et ce nouveau projet de loi, comme tu le disais, Clarlise, mais c'est vrai, va toujours dans le sens de moins de droits, de rogner toujours effectivement sur ce qui reste de droits pour les personnes migrantes et les demandeurs d'asile. Et surtout, c'est que ça rajoute des couches à un arsenal législatif qui est déjà pléthorique et qui, de toute façon, ne règle absolument aucun des problèmes depuis 20 ans ou 30 ans qu'on empile loi sur loi. Voilà.
Je vais continuer sur le même sujet, cette loi, c'est assez compliqué en France. Moi, je vais élargir un petit peu et passer dans les pays d'à côté où c'est, bon, comment dire, vous allez juger. Donc, Royaume-Uni, là, c'est une demi-bonne nouvelle. La justice britannique a retoqué le projet du gouvernement d'expulser vers le Rwanda, on en avait parlé, les migrants arrivés illégalement sur le sol anglais. Elle a en effet estimé que les déficiences du système d'asile à Kigali rendaient réel le risque pour les personnes d'être renvoyées dans leur pays d'origine sans garantie pour leur sécurité. Une décision qui a été quand même célébrée par l'association Asylum Aid, à l'origine de la requête. Le Royaume-Uni a déjà versé au Rwanda 120 millions de livres sterling, soit 144 millions d'euros payés par le contribuable. Voilà, quand on essaye sur des choses un petit peu compliquées. Eh bien aussi l'Italie, Alors l'Italie, là, c'est pas encore tout à fait finalisé, mais c'est, moi, en lisant l'info, c'était comment ne pas accueillir de migrants. Et ce 6 novembre dernier, un accord a été signé entre la première ministre italienne et le premier ministre albanais en vue de la construction en Albanie de 2 centres destinés à détenir les personnes secourues en mer par des bateaux italiens, notamment des personnes en quête de sécurité. Alors, les personnes secourues en mer par les autorités italiennes, y compris celles venues chercher la sécurité en Europe, relèvent de la compétence de l'Italie et ne peuvent donc pas être envoyées dans un autre pays avant l'examen de leur demande d'asile et de leur situation personnelle. C'est aussi simple que ça. Cet accord repose sur l'idée de refoulement, pratique interdite au terme du droit international comme du droit européen et pour lesquelles l'Italie a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que resignale à nouveau une chercheuse d'Amnesty. Alors l'Italie affirme que des personnes détenues continueront à relever de sa compétence, mais en réalité cet accord servira à contourner le droit national, international, européen. Cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les personnes demandeuses d'asile qui pourraient faire l'objet d'une détention prolongée et d'autres violations en l'absence du contrôle de la part de la justice italienne. Et la Commission européenne a déjà indiqué clairement que la législation du droit d'asile ne saurait s'appliquer en dehors de l'Union européenne. Voilà où on en est en Europe pour le droit d'asile.
Oui, il faut rappeler que le gouvernement actuel en Italie, effectivement, est très fortement penché à l'extrême droite aussi.
Bah, on va dire que le Sénat français était quand même un petit peu sur la droite, là, on a l'impression quand même. Hein,
et puis, dit que c'était la course à l'échalote.
C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on continue là aussi d'empiler des décisions aberrantes sur d'autres décisions aberrantes qui vont toujours dans le sens de remise en cause des droits fondamentaux.
Juste rajouter quelque chose, que toutes ces idées, on va dire ces mauvaises idées de la France et des pays de l'Europe ne tiennent absolument pas compte de ce qui va se passer dans quelques années dans les réfugiés climatiques. Enfin, il n'y a aucune vision à... C'est vraiment du court terme électoraliste, on va dire.
Tout à fait. Le temps pour l'émission s'avance, donc on va passer à la deuxième pause musicale. On se retrouve juste après.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. The only one you are. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Grand Corps Malade, un morceau qui s'appelle Mesdames, et que j'ai choisi pour cette émission de ce soir, parce que le 25 novembre prochain, ce sera la journée internationale contre les violences faites aux femmes, donc je trouvais que ce morceau était tout à fait indiqué.
Et nous, on était d'accord aussi.
Voilà. Et on va changer complètement de sujet, je crois qu'Edith voulait nous vous parler d'une action, d'une méthode d'action d'Amnesty qui s'appelle les actions urgentes.
Voilà, alors donc, Amnesty fête les 50 ans des actions urgentes, un outil militant, efficace, permettant d'agir au plus vite en faveur d'une ou plusieurs personnes en situation critique. Alors, ce sont des actions qui sont lancé pour défendre une personne ou des fois aussi un groupe de personnes faisant face à une situation dramatique qui nécessite une action immédiate. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce mouvement. Donc, ça existe toujours. Hein. Il suffit d'aller sur le site d'Amnesty et vous pouvez vous inscrire et recevoir les actions urgentes individuellement, si possible. En mars 1973, Sao Paulo, Brésil. Maria José Rossi rend visite à son mari détenu par la police militaire. Le directeur des quartiers généraux lui indique une pile de documents. Votre mari doit être plus important que l'on pensait puisqu'on a reçu un tas de lettres venant de partout dans le monde. Ces lettres, sont le fruit de la première action urgente d'Amnesty International. Un essai concluant puisque peu de temps après, l'opposant politique Luis Basilio Rossi est libéré. En France, les réseaux d'action urgente est constitué d'environ 22 000 personnes. Des militants, des militantes qui interpellent rapidement les autorités d'un pays lorsque la situation d'une personne ou d'un groupe est critique. Demander la libération d'un défenseur des droits humains, l'annulation d'une condamnation à mort ou d'une expulsion forcée. Pour limiter au maximum les intermédiaires, c'est le chercheur d'Amnesty sur le terrain qui rédige lui-même l'action urgente présentée de façon à faire comprendre au plus vite la situation. Alors, il y a des femmes, on donne l'exemple de femmes, là, vous pouvez lire, c'est dans la chronique, hein, cet article-là. Donc, c'est la chronique de ce mois-ci, du mois de novembre, qui sont comme nous, on va dire, dans des groupes d'Amnesty et qui renvoient les actions urgentes à un groupe de personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés pour les faire rapidement. Donc, on peut aussi avoir des réponses, et quand on a des réponses, l'exemple qui nous est donné, c'est au mois d'août dernier, une militante du réseau, donc là on est au Pays Basque, lui a fait parvenir une réponse de l'ambassade de Bolivie en France, et une bonne surprise, conformément à la demande d'Amnesty International, Amparo Carvajal, 84 ans, présidente de l'Assemblée permanente de défense des droits humains, a pu être transféré dans un centre médical après avoir obtenu l'évacuation des locaux de son ONG. Et sans une action urgente, je serai encore emprisonné. Là, c'est un autre témoignage, c'est Ibrahim Ez Eldin, qui a été invité à la conférence « Célébrons les 50 ans des actions urgentes » ce 23 septembre dernier. Alors Ibrahim, il travaillait lui pour la Commission égyptienne des droits et libertés lorsqu'il a été enlevé en pleine rue au Caire en juin 2019. Et il a été libéré en avril 2022, car la pression exercée par les lettres des militants d'Amnesty lui ont donné la force de faire face à sa détention abusive. C'est ce que j'aime dans ce mode d'action, avance une militante du groupe local de Rouen, Marie Auchard, qu'on a rencontrée.
Oui, que l'on connaît.
Voilà, quand on se réunit au niveau de la région. Et elle dit « J'ai l'impression d'être vraiment utile et c'est un beau moyen d'exercer sa solidarité envers un autre être humain qui en a besoin. » Elle préfère toujours les lettres aux emails parce qu'elle craint que les emails soient supprimés sans la lecture. Donc, elle recopie les adresses, elle envoie les lettres. Et le premier bénéficiaire d'une action urgente dont je vous ai parlé, là, Luis Basilio Rossi, est décédé le 21 janvier dernier à l'âge de 83 ans. La section hollandaise d'Amnesty International en Belgique, alors non, c'est pas hollandaise, c'est néerlandophone, lui a rendu hommage avec ces mots. Puisse son histoire nous rappeler à quel point nous sommes interconnectés en tant que mouvement et puisse-t-elle continuer à nous inspirer de prendre des mesures urgentes. Alors, allez sur le site, inscrivez-vous et vous recevez les actions et vous pouvez faire quelque chose pour les droits humains de chez vous.
Voilà, c'est un merci Edith de nous rappeler effectivement ce qui est aussi en fait ce mode d'action, c'est ce qui était à l'origine de la création d'Amnesty International.
Dans un deuxième temps, voilà.
Oui, donc il ne faut pas hésiter effectivement, comme vous disiez Edith, à aller s'inscrire sur le site. Il y a également beaucoup de pour refaire ces actions. Il y a également beaucoup de pétitions à signer sur le site. On vous recommande aussi de les faire parce que le poids d'une pétition, qui est aussi un autre mode d'action. Le poids d'action d'une pétition, c'est en rapport avec le nombre de signatures. Donc il est bien évident que quand on récolte quelques centaines ou milliers de signatures ou quand on récolte des millions de signatures, ça n'a pas du tout le même poids vis-à-vis des autorités auxquelles on s'adresse. Donc voilà. Il faut signer.
Voilà, on peut dire que moi, sur le groupe d'Evreux, j'ai un groupe de personnes extérieures à Amnesty à qui j'envoie les actions urgentes. Donc on peut aussi dire, vous me les envoyez, puis je ferai ça directement chez moi.
Oui,
et quand tu parles des pétitions, on n'a pas parlé de la situation Israël-Palestine, mais la pétition pour laquelle on avait demandé des signatures à la dernière radio, il y a eu 1 million de signatures.
Pas d'Evreux.
J'ai écouté ce que tu disais. On en a parlé, il y a eu 1 million de signatures.
Ben oui, parce que c'est grâce à nous peut-être.
S'il y avait eu 1 million de signatures à Evreux, ça voudrait dire que des gens auraient signé plein de fois.
On a fait signer, c'est
non,
ça.
Non mais tout à fait. Non, mais,
principe actif est entendu partout.
Blague à part, c'est important effectivement de faire ces actions et de surtout continuer à se bouger. Moi, je vous ai parlé des mamies en Suisse en début d'émission. Donc voilà, et qui ont obtenu effectivement de porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas rien. Donc, il faut se bouger. Ça, on le répétera jamais assez. Voilà. Donc, on va conclure l'émission avec quelques infos locales. On en a plusieurs. Donc, tout d'abord, notre prochaine émission d'Amnesty sur la promotion et la défense des droits humains, ce sera le mardi 28 novembre prochain, 19h à 20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Vous avez également beaucoup de podcasts des dernières émissions à écouter ou réécouter sur le site de principeactif.net. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça c'était la première chose. On a également donc ce mois-ci nos amis d'Amnesty Louviers qui font leur traditionnelle et annuelle foire aux livres. Ce sera, je suppose, au lycée Marc Bloch. J'ai pas l'information, mais je pense que ce sera au lycée Marc Bloch. Et ce sera le 18 et 19 novembre prochain. Donc allez là aussi, comme nous on fait, acheter des livres d'occasion à un prix défiant toute concurrence, en soutien aux actions et aux mobilisations de nos amis d'Amnesty Louviers. Donc 18 et 19 novembre au lycée Marc Bloch à Louviers. Alors on va bientôt rentrer dans la campagne des 10 jours pour signer, ouais. Ça on vous en parlera plus lors de la prochaine émission.
Prochaine radio, voilà, c'est en décembre.
Voilà, c'est au début du mois de décembre, mais on sait qu'on tiendra plusieurs stands de signatures, de pétitions et d'informations. On vous en reparlera plus en détail parce qu'on est encore en train de préparer tout ça. Voilà, mais les 10 jours pour signer, grande campagne de mobilisation annuelle d'Amnesty, ce sera la première semaine de décembre. Et on vous a
parlé. Et Anne Passeo.
Voilà, alors, c'est ce que j'allais dire.
On devait en reparler.
On vous a passé tout à l'heure un morceau de Anne Passeo. Alors, c'est une musicienne, dite de jazz, mais enfin, c'est une musicienne avant tout. Et elle sera en concert ici à Évreux, au théâtre, le vendredi 8 décembre. Vous avez les places qui sont déjà en vente, bien sûr. C'est nos amis du Tangram. Une petite parenthèse, on remercie effectivement nos amis du Tangram qui nous proposent encore cette année, on vous en parlera tout au long de l'année, de différents partenariats pour différents spectacles auxquels ils invitent Amnesty International. Donc ce sera le cas pour le concert d'Anne Passeo le 8 décembre au théâtre. Et on rappelle qu'Anne Passeo, au-delà d'être une excellente musicienne, est également très engagée pour la défense des droits des femmes et sympathisante d'Amnesty International. Donc ça fait beaucoup de raisons d'aller l'applaudir. Voilà, on rappelle le 8 décembre, vendredi à 20h au théâtre Le Gendre. Et puis au cinéma aussi va sortir là très prochainement, on n'a pas les dates, mais très prochainement, un film soutenu par Amnesty qui s'appelle avant que des flammes ne s'éteignent. Donc on n'aura pas le temps de vous lire la critique qui est parue dans la chronique, mais c'est un film qui traite des violences policières et qui raconte le parcours du combattant que doit faire une famille dont un des membres a été tué en France suite à une bavure policière. Voilà. Donc ce film s'appelle « Avant que les flammes ne s'éteignent ». On espère pouvoir tenir un stand et peut-être faire une soirée spéciale au cinéma, mais rien n'est arrêté encore pour l'instant. Voilà. Donc c'était nos infos locales.
Un documentaire qui est soutenu par Amnesty. Peut-être que, je pense que bon, sur Évreux, ça va être compliqué de le voir, mais peut-être les gens qui se vont ailleurs un peu. Donc Pierre Feuille Pistolet de Massiek Amela et qui parle des Ukrainiens qui sont partis d'Ukraine au début du conflit. Donc ça a l'air tout à fait intéressant à regarder avec beaucoup de témoignages.
Ok. Bah, d'ailleurs, l'Ukraine, ce sera sur un spectacle qui aura lieu, si j'ai bonne mémoire, au mois de janvier. Ce sera en partenariat, un spectacle du Tangram en partenariat avec Amnesty. Ce sera également un thème qui sera abordé à travers une pièce de théâtre. Mais restez à l'écoute de nos futures émissions. On vous en reparlera.
Plein d'occasions pour rencontrer aussi les gens d'Évreux. C'est sympathique.
Tout à fait. Donc voilà, concert d'Anne Passeo, on rappelle rapidement, le 8 décembre. Prochaine émission d'Amnesty Évreux le 28 novembre. Et guetter les programmes du cinéma avant que les flammes ne s'éteignent. C'est le titre du film qui va sortir bientôt et qui est soutenu par Amnesty.
Voilà. Et surtout, gardez les yeux ouverts sur la défense des droits humains et soyez prêts à venir pour défendre les droits humains parce que je pense qu'il va y avoir quelques manifestations d'ici le mois de décembre par rapport à ce qui se passe actuellement aux chambres des députés et au Sénat.
C'est cela. Voilà. On souhaite le bonsoir aux auditeurs, aux auditrices au Principe Actif. Donc, on laisse la place au laboratoire et on vous dit à très bientôt.
Bonsoir.
Oh, bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.